Dans le calendrier que Marc a présenté, il y avait un sujet qui me semblait intéressant à traiter, parce que finalement, le sujet de la colère, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Vous avez certainement tous ici présents déjà vu un enfant qui se roule par terre, qui piétine, qui est fâché, et on ne le comprend pas. Pour lui, il y a quelque chose d'essentiel, mais on ne comprend pas. Moi, j'appartiens à une famille où il y a beaucoup de colère. C'est exceptionnel, c'est que dans ma famille que ça se produit, évidemment. Je suis la brebis. Enfin, disons qu'on apprend pas mal de choses. Un neveu aussi se roulait par terre, et puis par après, on a dit oui, il se roulait par terre parce qu'il avait mal ici ou là. Il est vrai qu'un enfant ne peut pas exprimer ce qu'il ressent, il n'a pas de mots, il n'a pas de vocabulaire, donc il montre qu'il est en train de mourir et il se roule par terre. Mais ce n'est pas toujours très bien compris, en tout cas. Nous, adultes, parfois, il nous arrive d'être en colère. On prend un rendez-vous chez le dentiste, par exemple. Il y a une heure qui est fixée et le dentiste n'aime pas de commencer avec du retard. Je comprends ça un peu. Et bon, ben, la circulation se ralentit. Il y a quelqu'un qui. La voiture est bloquée, on ne peut pas dépasser, donc il faut attendre, ou bien il y a un accident, vous ne pouvez pas vous engager. Vous êtes sur le chemin des vacances, il y a un accident, ben, vous devez attendre. Vous aviez prévu de prendre le bateau vers l'Angleterre à telle heure, non, c'est raté. Enfin, il y a des tas de causes, des tas de raisons qui font qu'on est fâché, qu'on exprime son mécontentement. Parfois, un mensonge, une trahison, peuvent aussi produire des colères. Parfois, c'est pire encore. On peut exploser. Et tout le monde peut le savoir quand on est fâché. Dans ma famille, encore, une personne très proche a un jour jeté des tartes et des assiettes par terre. Ah ! En tant qu'enfant, j'étais... Ça m'a fait peur. En plus d'avoir les morceaux à ramasser, c'était très effrayant. J'ai eu très peur. Parce que je ne comprenais pas pourquoi ça s'était produit. Je ne l'ai pas demandé. Nous, chrétiens, on est parfois. On se lance dans un enchaînement de mots qu'on n'est pas habitué à prononcer. Parfois, on dit waouh! Je ne savais pas qu'il était capable de prononcer de tels mots suite à une contrariété. Certains sont même fiers d'avoir les mêmes accès de colère que l'oncle Oscar, qui n'hésitait jamais à donner son avis à propos de ce que le désapprouvait. Il paraît que notre manière d'exprimer notre colère découle des exemples, des modèles qu'on a vus au cours de notre enfance, au cours de notre jeunesse. Ça nous imprègne et on a cette tendance à vouloir réagir de la même manière, inconsciemment. Ça fait partie de notre ADN, comme on dit maintenant. C'est une excuse facile. La colère, en tout cas, fait souffrir. L'entourage est très impressionné, comme je l'ai déjà dit. C'est une situation malheureuse. La colère, c'est une faculté que Dieu nous a donnée pour réagir à un tort que nous jugeons grave à nos yeux. Dieu lui-même éprouve de la colère. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, quand on contrôlera un peu trop. Tantôt, je regardais encore, nombre 11, 1, tchac. Les Israélites mettent Dieu à bout et Dieu se fâche. Il veut détruire le camp. Tellement il est fâché. Vous avez tous en mémoire Caïn qui a tué son frère Abel. D'après les études concernant ce sujet, Dieu aurait clairement expliqué qu'il voulait qu'on offre un agneau pour lui montrer pour montrer à Dieu notre attachement à lui. Mais Caïn a voulu faire à sa mode et oui, et on représente souvent cette fumée qui ne monte pas vers le ciel, mais qui a tendance à allonger le sol, mais qui ne monte pas vers Dieu. Caïn était injustement fâché. Il savait ce qu'il fallait faire, mais il a fâché. Et il était tellement en colère qu'il a fini par tuer son frère. La colère peut aller loin. Et notre capacité de nous mettre en colère découle aussi du fait que nous avons été créés par Dieu, qu'il lui-même se fâche. Donc, si nous sommes parfois fâchés, c'est parce que nous avons quelque chose de la nature divine en nous. Parfois, notre colère est légitime. Quand par exemple Néhémie, qui s'est fâché en Néhémie 5, il est opposé au fait que les Juifs demandent des intérêts ou prennent des filles en esclaves. Donc c'était pas normal. Néhémie s'est fâché et il a résolu très vite le problème. Donc, comme je dis, la colère est parfois légitime, mais quand elle n'est pas légitime, elle est condamnable. Il y a souvent des gens qui nous disent « Ah, le bon Dieu, ceci, le bon Dieu, cela. » Mais quand on regarde la Bible, on voit que notre Dieu se met souvent en colère, assez souvent même. Et tant dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament, il y a des tas de versets qui disent que Dieu est fâché. La Bible nous dit que la colère de Dieu est quelque chose que les humains choisissent volontairement, en s'opposant aux prescriptions de Dieu. Nous avons un Dieu qui aime. Je pense que c'est en Exode 24, 36, quelque chose. Mais là, il est mis que nous avons un Dieu qui aime, qui est patient, lent à se mettre en colère. La colère de Dieu est toujours légitime. Quand Dieu se met en colère, c'est qu'il y a une raison valable. La colère est la réaction inévitable de Dieu face à nos péchés. Et je vous invite déjà à prendre vos Bibles. Donc la colère de Dieu est celle d'un juge qui rend justice. Lisons Romains. Je ne vais pas faire des longues lectures, parce que vous savez que je ne sais pas le faire. Mais je trouvais le sujet d'aujourd'hui quelque chose de très important pour notre vie ensemble. Et nous avons besoin d'exemples pour bien comprendre. Romains 2, verset 5. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. La colère, comme je l'ai dit, est une réaction inévitable de Dieu face à nos péchés. Et vous pouvez lire aussi au chapitre précédent, Romains 1, verset 18, « La colère de Dieu se manifeste du haut du ciel contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. » Ceux qui pêchent sans retenue savent qu'ils provoquent la colère de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire au verset 32. Donc ceux qui n'écoutent pas Dieu, ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Ceux qui pêchent sans retenue savent qu'ils vont recevoir des remarques de Dieu. Nous tous, nous sommes englués dans le péché. Mais si Dieu se met en colère contre notre péché, nous savons tous comment il faut y échapper, n'est-ce pas? Ce n'est plus une question compliquée. L'Épître aux Romains nous dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Et un autre verset dit « tout le monde est coupable devant Dieu. Lors de notre étude de l'épître de Paul aux Romains, nous avons une fois de plus entendu qu'il est possible d'échapper à la colère divine. Lisez pour vous-même Romains 5, verset 9. Être justifié, c'est être pardonné et considéré comme juste. Je vais quand même lire 1 Jean, premier épître de Jean. Donc, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. Donc, ça c'est la solution. Si vous croyez cela, eh bien vous échappez à la colère de Dieu. Entre nous, pécheurs, et la colère divine, est dressée la croix sur laquelle Jésus a porté notre punition. Si nous avons une totale confiance en Jésus et en son sacrifice, notre jugement ne sera suivi d'aucune condamnation et d'aucune colère de Dieu. Si Dieu peut se mettre en colère, je l'ai dit, c'est que la raison est importante. Dieu est mécontent aussi lorsqu'on subit une colère injuste. Dieu se soucie de notre état, de notre condition. Un acte condamnable n'en excuse pas un autre. C'est ce que vous pouvez lire en Romains 12, versets 17 à 19. Réagir à un tort par la colère n'est pas sans risque. Dans la vie de tous les jours, la colère détruit des mariages, divise des familles. La colère divise des églises. La colère transforme des amitiés en disputes. La colère entraîne l'amertume, le commérage et l'irritation. Comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, la colère est souvent explosive. Mais certains semblent indifférents au tort qu'on commet. On a l'impression que certains sont froids, ils réagissent, ce sont des soupçonnés, je pense, ils sont accommodants. Mais la colère, qui semble ne pas les impressionner, s'emmagasine en eux. Il y a quelque chose quand même qui se produit. Rappelez-vous que notre cerveau est capable d'enregistrer pas mal de choses. Et les contrariétés peuvent rester dans notre cerveau, dans notre mémoire, dans notre subconscient, disent les psychologues. Et si on n'exprime pas cette douleur en explosant, ben, l'amertume s'installe, il reste quelque chose. La déprime va se manifester tôt ou tard. Vivre auprès de quelqu'un qui est souvent en colère, ça devient invivable. J'ai vu que la colère peut avoir des effets sur la santé. Certains ont le déclenchement d'un psoriasis. Un psoriasis, ce sont des parties du corps qui deviennent plus épaisses au niveau des coudes, au niveau des genoux, des pellicules. Certains ont des douleurs lombaires. Certains développent de l'asthme tout à coup. Certains ont de l'urticaire. Et la santé mentale souffre. Donc vous savez que la colère que vous emmagasinez, que vous n'exprimez pas, peut vous détruire de l'intérieur. Et les psychologues disent que pour drainer cette colère, il faudrait aller voir un thérapeute, ou bien faire du sport, ou bien prendre des médicaments. Des médicaments qui vont vous abattre et vous allez être un petit peu fatigué tout le temps. L'apôtre Paul a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et s'il dit cela, c'est que nous avons toutes les raisons quand nous avons un sujet pour nous mettre en colère, c'est qu'il faut essayer de résoudre ce problème-là le plus vite possible. il est important de maîtriser la colère. Dieu a un projet pour résoudre le problème de la colère. Et je ne sais pas si vous avez quoi noter, mais Éphésiens 4, par exemple, Éphésiens 4, verset 2. Donc Éphésiens 4 nous donne des conseils pour ne pas en arriver là. Soyez toujours humble, empreint de douleur, de douceur, pardon. Soyez humble, toujours humble, empreint de douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Vous pouvez aussi trouver des versets en Tite 3, verset 2, Jacques 3, verset 2, et même le Seigneur Jésus en Matthieu 5, Matthieu 5, verset 22, c'est Jésus qui parle. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le grand conseil, et celui qui traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. On ne se met pas en colère, ce n'est pas selon le plan de Dieu. Jésus désapprouve la colère. L'accès de la colère est une caractéristique de l'homme qui n'est pas sauvé, de l'homme qui est livré à lui-même. C'est par notre caractère doux et paisible que nous, chrétiens, nous devons nous comporter parmi les non-croyants. Les colères de Jésus n'ont jamais été pour des raisons autres que la défense de l'honneur de son Père. Romains 12, versets 1 et 2, nous invite à nous changer, à devenir des sacrifices vivants. Nous voulons plaire à Dieu et montrer le fruit de l'Esprit qui habite en nous. Vous vous souvenez, Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, il y a 9 éléments, et ça veut dire que ce fruit, nous devons l'avoir entièrement en nous. Pas un morceau de fruit, mais le fruit entier. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, et j'en passe. Concrètement, la colère est condamnable quand elle est provoquée pour des raisons sans importance et quand le colérique pense pouvoir justifier toutes les contestations. Le colérique est condamnable et il dit tout ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Le colérique pense avoir plus de sagesse que Dieu. Comme je l'ai dit, Galates 5 nous donne de beaux conseils. Et Galates 5, verset 16, nous dit aussi, laissez l'Esprit diriger votre vie. Jacques donne encore des conseils au chapitre 4, versets 11 et 12. Rappelons-nous que Dieu seul est aux commandes. Cessons de regarder les autres de haut et de juger. Ce n'est pas à nous de juger, nous n'avons pas cette capacité. rappelons-nous que sans la grâce de Dieu, nous serions tous condamnés. Un auteur américain, appelé David Paulison, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur, je l'ai vu à Genève l'an passé, hélas, le Seigneur l'a rappelé suite à un cancer du pancréas. Il est auteur de livres sur la relation entre la foi et la psychologie. Et il a écrit que la colère doit être reconnue et exprimée en des termes positifs. Selon lui, Dieu veut que la colère s'exprime de façon constructive. Une bonne relation avec Dieu va changer notre manière de considérer la colère et aussi notre manière d'exprimer cette colère. Nous devons nous souvenir que nous sommes tous au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Dieu va nous accorder son aide lorsque nous lui confessons notre tentation de toujours vouloir tout contrôler, de prendre sa place et de vouloir juger les gens autour de nous. La colère de Dieu envers nous, les pécheurs impénitents, on ne cesse pas de pécher. Chaque jour, si on fait le bilan, on dit « Ah oui, là, je n'aurais peut-être pas dû dire ça, je n'aurais pas dû faire ça. » La colère de Dieu, en réaction à la colère de Dieu, je dis, en réaction à notre péché, s'est déversée sur son Fils, qui a porté notre punition à la croix. La colère que nous avons, c'est Dieu qui l'a portée. C'est Dieu qui a pâti, qui a souffert à notre place pour nos fautes. Nous sommes au bénéfice de la miséricorde de Dieu et nous devons toujours être disposés à pardonner, sans maudire, sans insulter et sans rien jeter par terre, sans rien casser. Habités par l'Esprit, tout dans notre vie devrait rappeler le caractère de Dieu et donner de l'importance à ce qu'il est vraiment. En cas d'offense à notre égard, nous devons montrer la patience de Dieu afin de traiter le tort d'une manière constructive. Nous sommes capables d'aimer celui qui nous a causé du tort. Il faut aimer notre prochain. Il faut savoir pardonner. Pierre a demandé au Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? 7 fois, Seigneur? Non. 70 fois. Enfin, 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire un nombre infini de fois. Je dois avouer que ce n'est pas facile à faire. Il faut toujours faire face au mal avec un esprit de pardon, avec la patience, le fruit de l'esprit, avec miséricorde. Comme je l'ai dit, David Paulison et Gary Chapman, pourquoi ces deux auteurs? C'est parce que j'ai pris ces deux auteurs. Je ne pouvais pas lire tout sur la colère. C'est apparemment un sujet très vaste et qui est assez compliqué à traiter, à soigner. Je dois avouer qu'il y a des sujets sur la foi qui sont plus faciles à traiter que la colère. La colère nous envahit tous et comment il faut aborder ce sujet, c'est pas évident. Donc j'ai lu ces deux livres, je les ai parcourus depuis 2 mois et je commence à avoir un petit peu en avoir. Jusque-là, parce que j'ai envie d'aller plus loin. Donc, ces deux auteurs, Paulison et Sherman, enseignent que désormais, nous devons nommer la colère autrement. Nous devrions dire le mécontentement constructif, mécontent parce qu'on réagit à ces différents sujets, à ces différents torts. Donc, le mécontentement constructif. Plutôt que de nous mettre en colère, il faut faire quelque chose. Et cette manière de réagir découle de la compassion que nous avons pour les gens. Nous avons pitié d'eux, mais nous voudrions qu'ils changent peut-être leur manière de parler ou de provoquer les colères. Il faut aussi veiller à ne pas se mettre en colère, mais celui qui provoque la colère devrait aussi avoir son cœur changé. Donc, comme je l'ai dit, le mécontentement face au mal doit être l'expression de notre foi en Dieu et devenir l'expression de notre amour du prochain. Nous ne réagissons plus au mal par le mal de la colère. La compassion, comme j'ai dit, est constructive car elle analyse la situation et elle veut résoudre chaque difficulté. La compassion est une manière nouvelle de réagir à ce que nous estimons être mauvais, à ce que nous estimons être un tort. Face au mal, comme je l'ai dit déjà, nous devons manifester de la patience pour ensuite intervenir mieux. Nous devons certainement renoncer à la vengeance en offrant le pardon. L'amour aime la personne qui a commis le tort, mais elle n'approuve pas nécessairement le tort qui a été commis. On peut aimer quelqu'un, mais on peut ne pas aimer ce qu'il fait. J'ai des patients qui sont homosexuels. Je dois les aimer, mais je rejette totalement l'homosexualité. Je sais, par ma pratique, il y a des gens qui sont vraiment impossibles. Mais on va montrer de l'amour et en tant que praticien, je ne peux pas dire qui est quoi, qui fait quoi. Les homosexuels, ce sont en général, enfin ceux que je soigne apparemment, des gens assez gentils. Mais comment ils sont en arrivés là, je ne sais pas. Bref, c'est un autre sujet que je laisse à quelqu'un d'autre. La bonté et l'amour sont primordiales pour comprendre et résoudre les problèmes. Il ne faut pas aller vers la personne qui cause des torts en allant l'accuser, en la critiquant, en la menaçant. Parce que là, on va fermer les portes et la situation va être complètement bloquée. Nous devons y aller avec douceur. Nous devons y aller en posant des questions. Est-ce que ce que j'ai entendu, il faut être vraiment diplomate et je suis certain que dans les premiers temps, nous mettrons souvent les pieds dans le plat, comme on dit. J'ai parlé de trahison au début de mes explications sur la colère. En cas de colère suite à une trahison, il est important de ne pas réagir à chaud et de ne pas réprimander le fautif. Il ne faut pas « tu as fait ça, ça ne va pas, ça, qu'est-ce que tu penses ?» Il faut y aller mollo. Il faut montrer l'amour de Dieu qui nous habite. Il faut montrer qu'on souhaite qu'il confesse sa faute. Il faut y aller doucement. Donc. Il faut essayer de comprendre les raisons qui l'ont mis dans cet état. Il faut en arriver à ce que celui qui a commis le tort confesse sa faute et avoue qu'il a mal agi, qu'il se repente. Et quand il y a eu confession et repentance, nous aussi nous pourrons pardonner. Pardonner comme Dieu nous demande de pardonner. La confiance doit se reconstruire. Il faut refuser la distance avec la personne qui cause des torts. Parce que si on n'approche pas, les ponts vont être coupés définitivement. Il paraît que certains frères pardonnent d'autres, et puis quand ils entrent dans la salle, l'un n'ose pas croiser le regard de l'autre. Il faut aller vraiment, s'il y a eu pardon, il faut s'approcher, il faut au plus peut-être s'asseoir à côté de lui. Pourquoi pas? Il faut refuser la distance à cause de la faute. Nous devons avoir des dispositions de cœur de Jésus, qui à la croix dit « Père, pardonne-leur ». Mais d'après les études que j'ai lues, on ne doit pas pardonner tout sans confession, sans repentance. Il faudrait que celui qui a commis des torts confesse, se repente. Ceux qui ont crié à mort Jésus. Ils ont été pardonnés, mais je pense que c'est suite à la prédication de Pierre. Ceux qui ont donné leur cœur à Jésus à ce moment-là ont été pardonnés parce qu'ils ont confessé leur péché, parce qu'ils ont, ils se sont engagés envers Dieu à changer leur vie. Par la force de l'Esprit qui nous habite, soyons donc disposés à pardonner ceux qui nous ont fait souffrir. Comme je l'ai dit plus haut, le pardon qu'on accorde, c'est l'engagement d'accepter le fautif en dépit du mal qu'il a commis. Nous pardonnons, mais notre cerveau est une machine vraiment merveilleuse. Elle n'oublie rien. Les souvenirs, les causes de douleur que nous avons pardonnées remontent tôt ou tard. C'est difficile de pardonner. Et quand Dieu dit qu'il jette nos péchés au fond d'une mer profonde, ça veut dire beaucoup pour nous. C'est très difficile pour nous qui gardons tout en mémoire. J'ai fréquenté un rassemblement dans lequel un frère avait commis un faux pas grave. Il avait demandé pardon en public. Et un frère que je connais bien, parce que c'est mon père, relançait toujours la chose. Quand c'est pardonné, quand c'est confessé qu'il y a une repentance et qu'on a pardonné, il ne faut pas revenir sur ces causes-là. Ça peut détruire les relations, il y a toujours quelque chose. Je veux lire avec vous Éphésiens 4, encore. Éphésiens 4, verset 29. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi, selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela au milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour. De même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu jusque-là. Paul explique comment en finir avec la colère et l'amertume. Il y a des gens, comme je l'ai dit au début, qui sont des soupolés, qui ne réagissent pas, des gens qui ont toujours considéré que la colère est un péché. Ce n'est pas un péché, c'est une manière de réagir. C'est Dieu qui nous a fabriqués comme ça pour pouvoir réagir à un tort. Mais il faut canaliser notre colère. Il faut qu'elle devienne un mécontentement constructif, guidé par la compassion. En cas d'amertume accumulée au cours des années, à un certain moment, c'est la mort d'un parent, la mort de quelqu'un de proche, toutes les choses peuvent se réveiller. On dirait que notre cerveau a été saturé par tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on n'a pas exprimé, bien, ça va se réveiller. On va devenir difficile de caractère, on va devenir méchant avec les gens qui nous entourent, avec la famille, avec notre conjoint, avec les enfants. lorsqu'une heure se dépasse.
Et on peut devenir dépressif aussi.
Un nouveau choc émotionnel est donc déclencheur. Ici, j'ai vu ce que Gary Chapman propose. Il conseille de prendre 2 semaines de temps, voire 1 mois, de prendre une feuille de papier ou des feuilles de papier et de noter tout ce qui peut nous revenir en tête. C'est parfois étonnant, mais il y a parfois des listes complètes de personnes qui nous ont causé des torts et auxquelles on n'a pas réagi. On a toujours dit oui, c'est un péché de se mettre en colère, je ne vais rien faire. Il faut donc noter tout. Et on se rend compte que certaines personnes ne peuvent plus être approchées. Certaines personnes sont décédées. Ça peut être un père qui nous faisait toujours des reproches. Ça peut être un père, par exemple, qui était entraîneur sportif et qui avait un fils qui, lui, n'était pas sportif et qui l'a toujours dit « Oui, t'es un bon à rien. » Les paroles que nous, parents, disons à nos enfants peuvent avoir des effets qui ressortent plus tard. Il n'est pas bon de dire à un enfant « Tu n'es un bon à rien. » J'ai parmi mes patients 2 pères qui ont toujours dit à leur fils « Tu es un bon à rien, tu ne fiches rien à l'école, tu ne seras jamais rien, tu ne vas pas te débrouiller. » Les 2 fils se sont suicidés. Suite à ce que le père a dit. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Mais on ne va pas toujours au suicide. Mais comme je vous dis, on emmagasine des choses dans notre cœur. Et Gary Chapman propose donc, avec cette liste, de s'approcher de Dieu et de citer chaque péché et chaque personne et de demander à Dieu de prendre en charge la personne qui a dit des méchancetés auxquelles nous aurions dû réagir immédiatement. Chaque offense est déchargée sur Dieu. Et Dieu connaît la motivation de chacun à un moment précis. On doit confier chaque personne à Dieu et demander à Dieu de prendre soin d'elle et de lui pardonner le tort. On doit le dire à haute voix pour qu'on l'entende encore une fois. On le dit, mais il faut l'entendre de nous-mêmes. Et on recommence pour chaque sujet, pour chaque personne, afin de pouvoir repartir sur une base nouvelle, une base que chaque chrétien devrait vivre. Nous avons lu à la fin d'Éphésiens, Éphésiens 4, 29 à 5, verset 2, qu'il ne peut pas y avoir d'amertume en nous. Nous devons être des chrétiens qui donnent des exemples, nous devons être doux de caractère. Enfin, en cas de guérison émotionnelle, la guérison émotionnelle peut s'installer. Parfois, quand vous avez connaissance qu'une certaine personne vit encore, pour renouer des liens, il peut être bon de nous approcher de cette personne. Mais si nous craignons qu'il va y avoir de l'opposition encore, il faut prendre avec vous le pasteur qui pourra servir de personne intermédiaire, la personne qui peut se mettre entre les deux, qui va concilier, qui va rappeler des versets dans lesquels on nous invite à pardonner, à supprimer cette amertume. Et la réconciliation doit accompagner de pardon toujours. Certains restent irritables malgré tout. Nous sommes chrétiens et nous pensons toujours avoir raison. On ne se change pas en un claquement de doigts. Et par là, nous manifestons encore une fois que nous avons constamment besoin de l'aide de Dieu, de sa miséricorde, de sa patience à lui. Jour après jour, nous avons besoin que Dieu ait compassion de nous, qu'il soit là. Nous avons besoin de son pardon continuel, de son secours. En développant notre relation avec Jésus, nous allons nous changer un peu à la fois.
un changement va s'installer progressivement en nous. Il faut se donner à Dieu et demander que par son esprit, il nous transforme intérieurement, progressivement. C'est une guérison aussi de changer de mentalité. Et en cas d'accès de colère, nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, c'est le moment de manifester ta nature. Ta nature que tu as substituée à la mienne. En devenant chrétien, nous pensons autrement, nous sommes autres. Notre colère doit s'apaiser, comme j'ai déjà dit, avant le coucher du soleil. Car nous devons rester maîtres de notre colère. Si nous remettons au lendemain, à la semaine suivante, ben c'est la colère qui va nous dominer. Et Satan va nous insuffler des tas de choses. Comment nous devrions réagir? Il faut traiter le problème de la colère le plus vite possible. Je veux prier. Seigneur, nous voulons nous remettre à toi. Nous voulons que par ton esprit, tu nous transformes. Que par ton esprit, tu fasses de nous de nouvelles créatures. Nous voulons vraiment être ces nés de nouveau, Seigneur. Nous voulons faire table rase dans notre vie. Seigneur, nous voulons venir auprès de toi avec chaque tort qui a été commis à notre égard. Seigneur, nous voulons faire la paix. Ta paix. Tu nous as donné ta paix. Et Seigneur, nous voulons être en paix avec notre frère, notre sœur. Nous voulons être en paix avec celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas encore. Seigneur, fais de nous des chrétiens patients. Fais de nous des chrétiens qui soient doux de caractère. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Aide-nous à être des messagers de paix, de lumière. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.